Maude, je fais partie du projet Accompagnement Solidarité-Colombie.
On m'a invité, moi, aujourd'hui pour parler plus spécifiquement de communautés paysannes, comme on va parler ensuite d'Autochtones et questions syndicales. Donc, on a choisi un cas qu'on accompagne en Colombie, qui est celui qu'on accompagne depuis le début de la création de notre organisme, qui est le cas des communautés afro-colombiennes du Chocó. Mais juste avant de me lancer là-dedans, je vais essayer de résumer en 4 minutes de tracer un tableau de la Colombie. Donc, ça va être complètement incomplet, mais juste quelques données significatives. Ensuite, je vais parler du déplacement des communautés paysannes. Et enfin, quelques mots ensuite sur nos inquiétudes actuelles quant à toute la répression qu'il y a contre nous, contre les gens qui font de l'accompagnement en Colombie, et de façon plus générale contre les organisations de droits humains en Colombie, parce que le contexte actuel est très préoccupant. Et puis, je pense que mes collègues vont également aider à mettre en lien avec l'accord de libre-échange que le Canada a signé en juin, et puis qui donne un peu un appui international au gouvernement colombien, au gouvernement d'Uribe. Donc, la Colombie, en quelques mots, c'est à la sortie, peut-être, vous pourrez regarder, j'ai collé un petit article qui est sorti dans Le Devoir il y a 2-3 jours où on annonce qu'un représentant de Human Rights Watch a été expulsé de Colombie et le gouvernement d'Uribe le traite de défenseur des FARC, la plus grosse guérilla armée de Colombie. Et il faut dire que Human Rights Watch vient de sortir un rapport où ils ont documenté de nombreux cas de violation de droits humains et ils concluent qu'en Colombie, par année, il y a autant de violations de droits humains que dans toute la dictature de Pinochet pendant 25 ans de dictature au Chili. Okay? Donc, ça met un peu le tableau. De dire également que la Colombie, c'est le seul pays d'Amérique latine qui n'a jamais connu de dictature. Donc, c'est officiellement une démocratie, la Colombie. Pourtant, on a, quand on regarde au niveau des droits humains, quand on regarde au niveau de la complicité des militaires avec les structures paramilitaires, ça nous donne un portrait d'une dictature, même si le gouvernement a été élu et que c'est officiellement une démocratie. Sans rentrer dans l'histoire au complet de la Colombie, ça serait compliqué, mais dire que le conflit qu'on voit en Colombie, c'est pas quelque chose de nouveau. Habituellement, on remonte les sources du conflit aux années 40. C'est la période de violence politique en Colombie où le Parti conservateur et le Parti libéral s'affrontent pour avoir le pouvoir. Et il va déjà y avoir une constitution de quelques groupes guérilleros ou du moins des paysans armés. C'est une période très sanglante de la Colombie qui va laisser près de 300 000 morts dans les années 40-50. C'est 300 000 morts qui sont en complète impunité, sans enquête. Le Parti conservateur est au pouvoir, refuse de faire des réformes agraires. Donc, il va y avoir un très gros mécontentement dans la population, principalement chez les paysans. Et on va assister à un début de soulèvement armé plus organisé de la part des secteurs ruraux marginaux, de la part des Autochtones et du début de prolétariat en Colombie. Face à ça, le gouvernement colombien, le Parti conservateur qui veut garder le pouvoir, va développer une conception de la sécurité qui est liée à celle développée par les Américains pendant la guerre froide, qui est celle de la sécurité nationale et de l'ennemi interne. Donc, l'armée doit défendre la Colombie contre des ennemis qui sont à l'intérieur de la Colombie et non plus contre des agresseurs externes, ce qui donne lieu à des stratégies de sécurité et d'information, de travail d'intelligence militaire, puis un travail contre-insurrectionnel, contre les mouvements populaires, contre les syndicats, contre les mouvements paysans. Fait que ça, c'est pas récent, ça fait déjà une cinquantaine d'années que le gouvernement colombien rend son appareil de sécurité de plus en plus sophistiqué, avec un appui inconditionnel au début de la CIA, puis maintenant officiellement du gouvernement de la Maison-Blanche via le plan Colombie depuis 1999. Le plan Colombie comprend de l'aide militaire, de l'aide économique, etc. Peut-être quelques données vite. On considère que depuis le début de ce qu'on appelle la guerre sale, donc ce que je vous dis, une guerre sécuritaire contre des citoyens colombiens, contre un ennemi qui serait interne à la nation, on parle depuis 1965 de 65 000 cas d'exécution extrajudiciaire. Exécution extrajudiciaire, c'est un jargon de droits humains qui veut dire que c'est des militaires en fonction ou des fonctionnaires publics qui assassinent des gens sans les arrêter légalement, sans les faire passer devant un procès. Donc, 65 000 cas d'assassinat, 10 000 cas de gens qui ont été détenus puis qui sont disparus, donc 10 000 disparus. Et ça, c'est sans compter tous les cas de torture, de viol en tant qu'arme de guerre, de déplacement forcé, etc. Et puis, pour les derniers 10 ans, on parle de 20 000 assassinats seulement par les forces paramilitaires, donc ils viennent s'ajouter aux 65 000. Donc, ça vous donne une idée, quand on parle de la dictature de Pinochet, en 25 ans, c'était 3 000 morts à peu près. Alors ici, on parle de 10 000 seulement pour les forces paramilitaires dans les derniers 10 ans. Et une autre caractéristique de la dynamique du conflit colombien, c'est vraiment les stratégies qui sont développées pour contrôler le territoire. Donc, il y a toute une stratégie de guerre sécuritaire contre les ennemis internes de la nation, donc les gens qui s'organisent, les groupes, les organisations populaires, mais également une stratégie armée. Une des dynamiques du conflit colombien, c'est la stratégie de contrôle du territoire. Dans n'importe quelle guerre, c'est toujours une stratégie de contrôler un territoire, mais dans le cas de la Colombie, on voit que les stratégies militaires qui sont déployées sur le territoire sont directement en lien avec les intérêts économiques, c'est-à-dire avec les plans qu'a la nation pour son développement économique, mais également avec des plans continentaux comme peut l'être la route panaméricaine, le plan Puebla-Panama-Putumayo. Donc, ce sont des grands corridors stratégiques où on veut développer des infrastructures, permettre l'investissement étranger. Pour permettre l'investissement étranger, il faut sécuriser avant le milieu. Donc, sécuriser le milieu, c'est s'assurer qu'il n'y a pas de guérilla, mais également s'assurer qu'il n'y a pas de paysans qui vont réclamer le droit à leur terre, qu'il n'y a pas de syndicalistes qui vont chialer trop haut quand les compagnies canadiennes vont arriver avec des bas salaires, etc. Pour vous donner un ordre de grandeur, on parle de 4 millions de personnes qui sont déplacées en Colombie. Donc, la Colombie arrive tout de suite après le Soudan dans les cas de crise humanitaire de réfugiés dans leur propre pays. Et seulement pour la dernière année, c'est 300 000 personnes qui ont perdu leur terre, qui ont été déplacées. Je voudrais souligner que selon notre analyse puis celle des communautés qu'on accompagne, les déplacements forcés, on peut pas affirmer que les déplacements forcés sont provoqués par le conflit armé, mais que le conflit armé est plutôt un prétexte aux déplacements forcés. Puis là, mon exemple va un peu vous démontrer qu'est-ce que j'entends par là. Puis, juste avant, j'ai tiré une citation qui vient du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Mon chiffre de 4 millions vient de cet organisme-là, de l'ONU, et qui dit, en parlant des déplacements forcés en Colombie, « Le phénomène est imputable principalement à la collaboration des entreprises propriétaires de plantations avec les paramilitaires pour acquérir des terres de force et détruire la forêt pour permettre l'expansion de la production agricole. » Donc, ce n'est pas seulement nous qui l'affirmons, c'est un fait qui est reconnu par des organismes internationaux que sous prétexte de conflit armé, sous prétexte de lutte contre la guérilla ou contre le narcotrafic, on utilise la stratégie militaire et paramilitaire pour libérer les territoires qui sont riches en ressources naturelles, les territoires où vont passer les routes ou les grands corridors stratégiques d'infrastructures. Alors, ce qui cause justement la présence de 4 millions de réfugiés sans terre et puis de gens qui vont aller s'agglutiner dans les villes sans emploi. Donc, le cas précis dont on veut parler aujourd'hui, c'est celui du Chocó. Tantôt, je vous parlais de la route panaméricaine. Il manque seulement 20 km à cette fameuse route panaméricaine qui doit relier l'Amérique du Nord jusqu'à la Terre de Feu pour permettre la circulation des marchandises. Le seul tronçon de route qui manque est exactement dans le Chocó. Alors, c'est une région de jungle. C'est une région extrêmement riche. C'est la deuxième région la plus riche en termes de biodiversité au niveau mondial. Donc, outre la terre fertile, vous pouvez imaginer tout l'intérêt également des entreprises pharmaceutiques pour s'approprier les brevets sur la biodiversité. Alors, c'est une région donc de jungle qui n'est pas très peuplée. Elle est peuplée traditionnellement par des communautés noires, des communautés afro-colombiennes. Donc, les premiers esclaves qui se libéraient allaient se réfugier dans la jungle le plus loin possible pour jouir de leur liberté, ce qui explique qu'il y a une présence principalement de communautés noires. C'est la région, une des régions les plus pauvres de Colombie également. Alors, les communautés avec lesquelles on travaille, c'est, vous allez m'entendre parler du Jiguamiendo et du Curvarado, qui sont deux régions dans le Chocó. Ces communautés-là ont fait des luttes avec beaucoup de communautés noires de toute la Colombie dans le milieu des années 90 pour revendiquer une propriété collective de leurs terres, puisque ça fait des centaines d'années qu'ils sont installés sur les mêmes terres et puis qu'ils vivent de façon traditionnelle, une agriculture de subsistance, un mode politique qui est plus proche de leur mode politique tribal. Et c'est une lutte qui a été gagnée avec la nouvelle constitution de la Colombie en 95. Les communautés afro-colombiennes se sont vues reconnaître le droit à la propriété collective de la terre. Donc, c'est un fait quand même d'importance. C'est la seule place en Amérique ou au monde qui reconnaît le droit des communautés noires traditionnelles. Mais bon, dans les faits, c'est pas la loi qui protège des balles. Et va se déployer l'opération Genesis, qui est une opération militaire commandée par le général Rito Alejo del Rio, qui est toujours en impunité. Donc, c'est une opération militaire où ils vont bombarder littéralement la région, tous les villages afro-colombiens, pendant que les paramilitaires, les groupes d'extrême droite, vont faire des incursions dans les villages, commettre des massacres d'une horreur indescriptible, des viols, de la torture, des assassinats. Puis c'est un phénomène, c'est pas un cas particulier, c'est un phénomène qu'on va voir se déployer à la grandeur de la Colombie dans les années 90, où la stratégie est vraiment celle du terrorisme de masse. On rentre dans les villages, puis on essaye de terroriser la population avec des actes très, très barbares. Alors c'est pas seulement tuer, c'est vraiment jouer sur l'inconscient collectif, sur la conscience collective. Donc, après l'opération Genesis, après les milliers de morts, il va rester 4000 survivants. Ces gens-là vont fuir le territoire parce qu'il est complètement contrôlé par les paramilitaires d'extrême droite. Ils vont fuir leur territoire sans comprendre ce qui se passe. C'est pas où eux habitaient, c'était pas une région traditionnelle de guérilla, il n'y avait pas eu de conflit jusque-là, ils sont dans une région éloignée. Fait que les communautés fuient, mais sans comprendre pourquoi du jour au lendemain, il y a des bombes, il y a des gens qui viennent avec les mitraillettes, les parents sont tués. Alors, ils se réfugient dans une ville, ils vont rencontrer là une organisation de droits humains qui s'appelle Justicia y Paz, Justice et Paix, qui est une organisation avec laquelle on travaille en Colombie. Et ils vont commencer tout un travail au niveau légal pour revendiquer, pour préparer le retour des communautés sur leur terre, pour documenter les cas de violation de droits humains, puis faire un travail d'aide psychologique parce que les gens ont des très gros traumatismes liés à la barbarie des actes de guerre. Donc, en 99, deux ans après avoir été déplacés de force sans trop comprendre pourquoi, les communautés commencent à revenir sur leur territoire de façon organisée, puis avec une présence de l'organisme Justicia y Paz, qui va faire des demandes au niveau international pour avoir des observateurs également, pour assurer la sécurité des communautés qui reviennent sur leur territoire. Et puis, c'est seulement en revenant sur les territoires que les gens commencent à comprendre pourquoi il y a des bombes qui sont tombées du ciel un bon jour. Le territoire a été accaparé par des compagnies de palmes africaines. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est la palme africaine?
L'huile de palme.
L'huile de palme. Ça sert à quoi? Un substitut au produit pétrolier. En effet, l'huile de palme sert à faire le fameux biodiesel. C'est supposé être une énergie verte, écologique et renouvelable. Et puis l'huile de palme sert également à...
Si tu regardes les ingrédients, des biscuits, savon, c'est partout.
Hein? Exactement. Et le popcorn. Le popcorn. On pourrait tous les nommer. C'est en ce moment l'huile qui est le plus utilisée au niveau mondial. Puis c'est un produit qui est très poussé en ce moment parce que justement c'est un substitut aux produits pétroliers. Donc c'est-à-dire on investit dans les énergies vertes. Puis en effet, quand on regarde les plans économiques du gouvernement d'Uribe en Colombie, pour ces exportations, il y a 5 produits qui poussent pour les exportations, qui sont des produits traditionnels du tiers-monde, café, cacao, caoutchouc. Il y a les produits miniers maintenant. Alors, si on avait le temps, on parlerait de nos belles entreprises canadiennes là-bas. Et la palme africaine. Donc, la palme africaine a été mise dans un des 5 produits stratégiques d'exportation. Alors, les communautés reviennent sur leur territoire et puis déjà, les entreprises se sont installées, ont rasé une partie de la jungle et ont commencé à planter la palme africaine, qui sont des palmiers. Et puis, c'est des monocultures à perte de vue. Donc, comme toute monoculture, ça appauvrit le sol en quelques années. Et puis, ça demande une infrastructure gigantesque parce qu'on parle de milliers d'hectares. Donc, c'est de construire des routes dans la jungle, c'est d'assurer d'avoir du carburant, etc. Et sauf qu'ils se heurtent à la présence des compagnies de palmes et également toujours à la présence des paramilitaires qui, malgré leur démobilisation, continuent à être très présents dans la région. Parce qu'il y a une supposée démobilisation des groupes paramilitaires, mais dans la région, il y a des gens armés, habillés de civils qui viennent menacer les gens. Il y a 2 ans, une des personnes qu'on accompagnait, Orlando Valencia, a été assassinée, a été enlevée devant nous, puis assassinée le jour où il allait témoigner à un procès pour expliquer comment lui s'était fait voler la terre par des paramilitaires. Et puis, il y a quelques jours, encore au début d'octobre, un autre des personnes qu'on accompagnait a été assassiné, encore une fois, par les paramilitaires le jour où il allait témoigner de ce qui est arrivé pendant le déplacement, quand on lui avait volé la terre. Peut-être juste mentionner pour donner un exemple de la complicité entre les autorités colombiennes et les paramilitaires. La dernière personne qui a été assassinée de ce processus-là, en début octobre, Walberto, il avait une escorte de protection de la part des services de sécurité colombiens, le DAS, Département administratif de sécurité. Parce que son cas est reconnu devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme, le gouvernement colombien a été obligé d'assurer sa sécurité, de lui donner 2 gardes armés, un char blindé. Pourtant, les paramilitaires ont fait leur menace, ont dit clairement qu'elle allait l'assassiner, puis le jour dit, ils ont réussi à l'assassiner. Donc, pour faire la transition, parce que je dois laisser le tour de parole bientôt, je vous disais tantôt que dans les années 90, à la grandeur du pays, on a vu cette stratégie-là de contrôle du territoire via une stratégie de terrorisme massif. Donc, c'était vraiment de contrôler les territoires puis de briser toute résistance populaire organisée. Dans les années 2000, il y a une certaine accalmie, pas en termes de nombre de violations de droits humains, mais en termes de la stratégie guerrière. C'est pratiquement impossible maintenant en Colombie de s'organiser, de faire des organisations sociales massives. Les gens ont peur, le tissu social est complètement détruit. Les gens ont peur de parler à leurs voisins, il y a une méfiance incroyable. Et puis, tout le monde est polarisé dans le conflit. Donc, les années 2000 vont voir une nouvelle stratégie qui va être celle plus des assassinats ciblés, comme les 2 cas dont je viens de vous parler, et le recours abusif aux tribunaux. Donc, le gouvernement colombien va intenter des processus judiciaires contre les défenseurs de droits humains, contre les avocats, contre, par exemple, tous les représentants des communautés afro-colombiennes dont je vous parle ont des mandats d'arrestation contre eux. Par exemple, la représentante légale, Maria Chevera, qui est une grand-mère noire, elle est accusée d'être chef d'une division militaire de la FARC. Mais ça fait qu'elle ne peut pas se déplacer pour sortir, signer des papiers ou faire des représentations légales devant l'État. Donc, ça bloque tout le processus si la représentante légale ne peut pas sortir. Donc, c'est une stratégie que l'État utilise pour discréditer les personnes en les accusant, mais également pour mobiliser les ressources des organisations sociales qui vont concentrer toute leur énergie, leur savoir, leur argent à engager des avocats, à se défendre dans les processus judiciaires. Donc, c'est un phénomène qui est vraiment inquiétant en Colombie en ce moment, parce que en plus, les avocats qui osent défendre les gens qui sont accusés d'être membres de la FARC, eux aussi vont devenir la cible des paramilitaires puis des militaires. Ah, vous défendez des terroristes. C'est un peu pour ça, si vous avez le temps de venir à notre table, on pourra vous en parler plus, qu'on a commencé à travailler également dans les prisons en accompagnant le comité de solidarité avec les prisonniers politiques. En Colombie, il y a 7000 personnes, syndicalistes paysans principalement, qui sont incarcérés puis qui se disent prisonniers politiques. Donc, c'est vraiment une nouvelle donnée du conflit en ce moment qui est très inquiétante. 7200, exactement. Juste avant de terminer, puis pour faire suite justement à toute cette judiciarisation, criminalisation de ce qui est du travail de droits humains, peut-être mentionner quelques faits inquiétants dans le dernier mois. En fait, c'est pas nouveau qu'en Colombie, le travail de droits humains est associé au travail de la guérilla. Nous, on peut penser un peu à notre époque de guerre froide ou au McCarthyisme, où tout ce qui était syndicaliste était rouge, où on va vraiment polariser, vous êtes avec nous, vous êtes contre nous. bon, c'est pas seulement la guerre froide, mais... Alors, c'est toujours comme ça en Colombie. En 2006, par exemple, un discours qui nous avait frappé, c'était Uribe qui déclarait à la presse internationale que Amnesty International était un trafiquant de droits humains au service du terrorisme international. Fait que le président se permet de faire des déclarations de la sorte en public. Et puis, bon, ben, tout récemment, comme je vous disais, il vient d'expulser quelqu'un de Human Rights Watch en disant « c'est des défenseurs de la FARC ». Donc, il y a vraiment aucun respect du travail des droits humains et des organisations internationales. Donc, vous pouvez imaginer comment c'est difficile pour des défenseurs de droits humains colombiens de réaliser ce travail-là. Parce que eux, c'est pas seulement des menaces, ça va être directement des atteintes à leur intégrité physique, des enlèvements, etc. Ce mois-ci, le mois dernier, les gens avec qui on travaille en Colombie, les gens de Rusticia y Paz qui travaillent dans le Chocó, ont reçu énormément de menaces. Les accompagnateurs ont dû quitter les communautés parce qu'ils avaient des menaces ciblées à leur cellulaire. Il y a une des personnes qui a été enlevée par des paramilitaires qui s'est fait questionner, menacer pendant plus qu'une heure. Donc, c'est très difficile maintenant de trouver des gens colombiens qui sont prêts à risquer leur vie pour aller accompagner les communautés dans le Chocó. Puis, en même temps qu'on avait cette vague de menaces ciblées contre Rusticia y Paz, nous, on a reçu une lettre de menace de la part des Águilas Negras, qui est une des nouvelles organisations paramilitaires. En fait, c'est les mêmes personnes, mais avec des nouvelles dénominations. La lettre de menace a été envoyée à la Red Hermandad, qui est un réseau qui regroupe tous les organismes qui font de l'accompagnement, des organismes internationaux qui font de l'accompagnement en Colombie. Et puis, dans cette lettre-là, ils nomment tous les groupes, dont le projet Accompagnement Solidarité Colombie, et ils nous déclarent objectifs militaires des paramilitaires en nous disant que si on ne se tait pas, on va subir le même cas que, là, ils nomment les 38 personnes qu'ils ont assassinées récemment avec leur organisation sociale à côté. Donc, et puis... Encore une fois, pour souligner la connivence entre la stratégie qu'utilise l'État et celle des paramilitaires, on reçoit cette lettre de menace-là contre les accompagnateurs internationaux, disant « en allez-vous-en de Colombie où on vous assassine comme on a fait à ces gens-là ». Quelques jours plus tard, le gouvernement arrête une Allemande qui faisait de la recherche dans le Cauca, qui avait un visa de coopérant qui était tout en règle. Ça s'est passé le 6 octobre, ils ont arrêté cette personne-là, ils l'ont détenue. 15 minutes avant sa déportation, ils lui ont donné le droit de parler à un avocat, puis ils l'ont déportée. Alors, elle n'a pas eu de procès, puis ça a été un type de détention secret, si on veut, parce que ça n'a pas été annoncé qu'elle avait été détenue. Ça a seulement été annoncé une fois qu'elle était déportée. Et puis, quelques jours plus tard, ce sont trois Français qui ont été arrêtés encore dans la région du Cauca, deux qui ont été illico déportés. Alors, en même temps qu'on reçoit des menaces des groupes paramilitaires, l'État, de son côté, arrête les gens qui font la défense des droits humains, les internationaux qui font la défense des droits humains en Colombie. Et puis, quand ils ont déporté les deux Français le 13 octobre, le lendemain, Uribe, le président, apparaît à la télévision pour dire « ils n'auraient pas dû être déportés, ils auraient dû être jetés en prison en Colombie. » Parce que ce sont des gens qui incitent à la violence, ce sont des criminels, et encore le discours que les droits humains sont au service des guérillas, et etc. » Donc, c'est un peu le climat actuel. Puis nous, on analyse que si Uribe peut se permettre autant de déclarations au niveau international devant les agences de presse pour délégitimer le travail de droits humains, c'est parce qu'il reçoit des appuis internationaux. Parce qu'avant, il fallait qu'il montre un peu plus patte blanche avant de signer des accords économiques, de dire oui, ici, on est en pleine démobilisation des paramilitaires, on respecte les droits humains, etc. Maintenant qu'il y a eu des appuis, entre autres du Canada en juin, qui a définitivement signé l'accord de libre-échange, qui sont en négociation avec l'Union européenne, les États-Unis, c'est sur la glace en ce moment, surtout à cause du cas des syndicalistes. Les démocrates refusent de signer l'accord. Sauf qu'on voit qu'il y a un nouvel élan. Uribe peut se permettre beaucoup plus de déclarations et beaucoup plus de répression directe face au groupe de droits humains, chose qui se faisait auparavant par la main noire de l'État, par les paramilitaires, et puis maintenant c'est fait de façon ouverte, sans qu'il y ait de riposte internationale. Donc ça nous inquiète énormément. Et puis on assiste vraiment à une réduction de l'espace de droit en Colombie, une réduction de l'espace où c'est possible de s'organiser de façon civile, où c'est possible de dénoncer les cas de violation de droits humains.